20h-21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Jour J, c'est votre nouveau magazine que vous couronnez d'un très beau succès car vous êtes 114 000 auditeurs de plus à écouter RTL entre 20h et 21h. Merci à vous, ce succès, on vous le doit. Merci pour votre fidélité. Ce soir, notre jour J est le 16 août 1977. Le monde entier apprend la mort d'Elvis Presley. Le King devient légende. Nous sommes le 16 août 1977. À Memphis, une splendide maison blanche de style colonial devient le centre du monde. Des centaines de fans se massent derrière les grilles en pleurant, principalement des femmes dont les sanglots s'élèvent comme un seul et même chant pour célébrer celui qui, quelques heures auparavant, a été retrouvé inconscient, ici même, à Graceland. Nous sommes le 16 août 1977 et l'on vient d'apprendre la mort d'Elvis Presley. Il avait 42 ans.
On a tous été très choqués de sa mort. Pour nous, c'est le roi de la musique rock'n'roll. C'est pas la fin du rock'n'roll, mais c'est certainement la fin de ce qu'était le rock'n'roll des origines. Je ne peux juste pas croire qu'il soit mort. C'est terrible. Mais je remercie Dieu car il est mort ici à Graceland et pas sur la route comme tous les autres chanteurs de rock'n'roll.
Que tu sois noir ou blanc, jeune ou vieux, de Moscou, Londres ou Memphis, Elvis Presley sera toujours le roi du rock'n'roll pour moi.
Elvis, une étoile filante du rock'n'roll, surnommé The King, dont les déhanchés lascifs au début des années 50 ont fait trembler les filles, rougir les mères et choquer les puritains, à tel point que les réalisateurs de télévision ont eu pour consigne de ne le filmer qu'au-dessus de la ceinture. Elvis, qui se déplaçait en Cadillac rose, escorté par les services de police, mais qui n'avait pas oublié d'où il venait, une famille pauvre du Mississippi qui l'accueillera et qu'il fera travailler dans son royaume de Graceland, une demeure extraordinaire de 24 pièces sur un parc de 13 hectares qu'il s'offrira avec son premier million de dollars. On dit qu'Elvis est mort une première fois quand sa mère a disparu tragiquement à l'âge de 46 ans. Il s'apprêtait à partir en Allemagne pour son service militaire. À son retour, il aura perdu le goût du chant et préférera Hollywood. Il signera un gros contrat avec les studios, ira de succès phénoménaux en AV, isolé dans des demeures de milliardaires. Il carbure au Médoc pour mieux oublier la pression et l'image de has-been qui commence à lui coller à la peau. Mais Elvis, c'est aussi le phénix qui en 1968 fera un comeback qui marquera l'histoire. Dans une émission spéciale diffusée sur la NBC, il embrase le public, diablement sexy dans sa veste de cuir noir, en pleine possession de ses moyens, il enchaîne les succès et retrouve en un show sa place incontestée de roi du rock'n'roll. La gloire sera de courte durée. Rattrapé par ses démons, le King trébuchera puis s'écroulera devant son trône. Elvis Presley ne se cachera pas et ne présentera alors au monde qu'une caricature de lui-même, ange mi-flamboyant, mi-pathétique, engoncé dans des costumes à paillettes. Il paraît que Graceland a abrité ses crises de paranoïa et de boulimie, ses délires désespérés, sa vie la nuit et son sommeil le jour. Nous sommes le 16 août 1977 et cette demeure devant laquelle se ruent des fans éplorés détient des secrets qu'elle n'a aujourd'hui pas encore tous livrés. Bonsoir à tous, bienvenue à Memphis. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. C'était donc le 16 août 1977 sur la planète tout entière et bien sûr sur RTL.
RTL, 23h30. D'après une dépêche d'Associated Press de Memphis, Tennessee, Elvis Presley est mort mardi après-midi dans un hôpital de Memphis à l'âge de 42 ans.
Julien Bitoun, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous êtes professeur d'histoire du rock à Sciences Po.
Oui.
Vos cours doivent afficher complet.
Oui.
On n'imagine pas ce genre de cours à Sciences Po.
Il y a quand même beaucoup de cours en option à Sciences Po.
Ouais.
Donc j'ai moi-même eu la chance d'assister à des cours sur Bob Marley ou la British Pop là-bas. Donc effectivement, ouais, les futurs énarques ont quand même une culture musicale.
Très bien. Est-ce qu'ils connaissent, grâce à vous, Elvis Presley, dont on va parler aujourd'hui?
J'ose espérer qu'en tout cas, ils le connaissent un peu mieux.
Vos élèves nous écoutent, en tout cas. Merci d'être avec nous dans cette émission, justement, qui revient bien sûr Elvis, je dirais quelque part l'étoile filante du rock'n'roll, avec une carrière très émouvante, flamboyante parfois, pathétique aussi parfois, une mort qui reste quand même mystérieuse et qui a suscité bon nombre de questions et de théories. Déjà, ce que l'on vient d'entendre sur cette archive d'RTL, c'est que Elvis Presley n'a pas été retrouvé mort chez lui. Voilà, il a été retrouvé inconscient, il a été emmené à l'hôpital. Après, il y a 50 théories comme ça qui ont poussé avec le temps. Quelle est la réalité ? Est-ce qu'on la connaît ?
La réalité, on ne le saura jamais vraiment, puisque par définition, Elvis était tellement entouré que chaque information a été filtrée par le prisme d'une trentaine de personnes avant d'arriver à qui que ce soit d'à peu près neutre ou d'à peu près objectif. Ce qui est évident, c'est que Elvis était en très mauvais état physique à l'époque de sa mort, qu'il était complètement accro à toutes sortes de médicaments de prescription, notamment des antidépresseurs, des médicaments pour se calmer et toutes sortes de joyeusetés qui sont évidemment pas bonnes du tout pour le cœur, surtout quand c'est associé à un régime alimentaire qui est pas nécessairement sain. Il est connu pour son appétence pour les sandwichs à la banane et au beurre de cacahuète à n'importe quelle heure de la journée.
C'est spécialement bon pour les artères.
C'est délicieux, mais pour les artères, c'est pas top, effectivement. Et donc, effectivement, on peut tout à fait croire que c'est une attaque cardiaque due à la fois à ce régime alimentaire et aux médicaments qui ont eu raison de son cœur. La légende de plus en plus persistante veut qu'il soit mort sur ses toilettes.
Parce sur que le trône, pour le
voilà,
king.
Voilà, le roi mort sur le trône, il y a une certaine logique dans tout ça. Mort d'avoir trop poussé parce qu'il était gravement constipé.
À cause des drogues et des
voilà,
médicaments.
Voilà, désolé comme ouverture de
l'interview. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas flamboyant pour le coup.
Hein. Bah non,
c'est,
non, non.
Et on non, dit que son entourage... Voilà.
Pardon, ça résume très bien la carrière d'Elvis qui a toujours été à la fois dans la grandeur absolue et le très bas. Toute sa carrière a oscillé entre ces deux extrêmes.
On va parler d'Elvis, on va parler, revenir évidemment sur sa mort, sur sa carrière, mais revenons d'abord sur son enfance. Qui était-il ?
Alors Elvis donc est né à Tupelo, dans le Mississippi. C'est un détail géographique, pas pour évidemment l'office de tourisme de Tupelo qui est assez content de ce fait, mais surtout c'est un gamin qui a grandi dans une misère absolue. Alors c'était un fils unique qui a eu un frère mort-né, Jesse Garonne, et c'est un traumatisme qui évidemment l'a suivi pendant toute sa vie comme un fantôme permanent. Et évidemment du coup pour sa mère en particulier, il était un trésor absolu parce que c'était son fils survivant. Et donc depuis le début, il a été très couvé par sa mère, qui lui a offert sa première guitare. Ils ont déménagé à Memphis, et à partir de là, Elvis est devenu de plus en plus passionné de musique, en particulier de musique noire, puisque la musique était vraiment
gospel.
Très clairement séparée entre musique de blanc et musique de noir à l'époque. La musique de blanc, c'était la country. La musique de noir, c'était le blues et effectivement le gospel. Et vraiment, Elvis s'est nourri de ces trois influences-là.
Il sortait du lot ? Il avait déjà du talent ?
En tout cas, dès les premiers enregistrements, il y a clairement une voix qui est magnifique, qui est évidemment pas du tout maîtrisée, et c'est aussi ça qui fait le charme des premiers enregistrements. Après, sortir du lot, c'est beaucoup dire, parce que ce qui a fait Elvis après, c'est non seulement son talent musical, mais c'est aussi le personnage, c'est aussi l'ampleur de cette présence qui remplissait la scène. Et ça, évidemment, au départ, c'était pas du tout le cas, c'était un gamin plutôt effacé au début.
Il était poussé par sa mère ?
Il était soutenu par sa mère, mais pas nécessairement poussé. D'autant plus que à partir du moment où il a commencé à avoir du succès, sa mère a assez mal vécu le fait de ne plus l'avoir en permanence à ses côtés, le fait qu'il doive aller faire des tournées dans le sud des États-Unis et du coup s'éloigner d'elle. Il l'avait logé évidemment à Graceland à partir du moment où il a acheté la maison en 57, mais elle n'a pas survécu longtemps au succès de son fils.
Voilà, on y reviendra parce qu'effectivement, elle est morte elle aussi très jeune, à l'âge de 46 ans.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J et rock'n'roll et gospel ce soir, car l'émission revient sur la mort de son maître incontesté et jamais égalé. Rock dans ses accords, dans sa voix, dans ses déhanchés aussi. Elvis Presley est mort le 16 août 1977. D'aucuns parmi les plus jeunes n'ont peut-être de lui que l'image qu'il aura laissée avant de mourir, celle d'un homme à la dérive et d'un artiste sans phare qui s'accroche à la chanson et à la scène pour survivre malgré ses addictions. Mais Elvis, c'est aussi et surtout la flamboyance, le sex appeal des années 60, un succès plein planétaire et des fans qui tombaient comme des mouches à son passage. Julien Bitoun, vous êtes notre invité ce soir. Comment Elvis Aaron Presley est-il devenu The King ?
La carrière d'Elvis a été assez lente au démarrage. C'est pas une success story instantanée comme on peut l'imaginer, genre il joue dans un bar, un imprésario le remarque et une semaine plus tard il est au Madison Square Garden. Non, il a d'abord commencé, il était routier à l'époque et il a enregistré en 53 un single pour sa maman, pour lui faire un cadeau pour son anniversaire. Et en fait à cette époque-là, la secrétaire des studios Sun qui était à Memphis a gardé son numéro parce que elle a remarqué qu'il était bon chanteur de ballades, comme elle l'a noté à l'époque. Ensuite, Elvis est revenu pour une audition avec Sam Phillips, donc des studios Sun, qui est un lieu légendaire du rock'n'roll de la première époque, où on a vu notamment Johnny Cash faire ses débuts, Jerry Lee Lewis, enfin des gens extrêmement importants comme ça. Et Sam Phillips n'était pas du tout convaincu par le talent d'Elvis. Il lui a donné une deuxième chance, une troisième chance, etc. Et puis pendant une pause, entre deux balades mièvre à souhait, Elvis a commencé à faire le con, tout simplement, à jouer un titre de blues complètement obscur que personne ne connaissait, à part les musiciens qui étaient avec lui. Et à ce moment-là, c'est devenu effectivement un titre que personne n'avait prévu de lui faire reprendre et qui est devenu l'acte de naissance du rock à l'été 54. C'est donc That's Alright Mama.
Donc c'est là que démarre aussi la carrière d'Elvis.
Bien sûr.
C'est comme ça qu'Elvis devient The King.
Alors,
un peu plus tard.
Ouais, c'est ça. Faut garder en tête que le label Sun à l'époque est un label relativement local. Mmh. C'est-à-dire que Sam Phillips allait lui-même avec des disques dans le coffre de sa voiture voir les DJ des stations de radio locales, etc. Donc pendant les deux premières années de sa carrière, Elvis tourne essentiellement dans le sud des États-Unis avec d'autres artistes et il n'est pas encore la star énorme que l'on connaît ensuite. C'est à partir de 56 où là vraiment tout explose pour lui. Par plusieurs facteurs évidemment, à la fois son nouveau manager dont on va parler, ses passages à la télé et puis son passage sur un nouveau label, sur une nouvelle maison de disques RCA qui rachète son contrat à partir de 56.
Elvis est une star en tout cas quand il doit faire son service militaire et c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me souviens que les artistes quand ils démarraient jeunes à l'époque, on suivait leur vie. Je me souviens d'images de permission de Johnny Hallyday qui venait embrasser Sylvie sous les objectifs des photographes, c'est quelque chose qu'on ne voit plus parce que le service militaire n'existe plus de la même façon en France. Mais c'est vrai qu'on s'attachait à ces personnages et on les voyait grandir aussi. Il s'apprête aussi à faire ce service militaire et à partir en Allemagne quand sa mère meurt. Et je le disais en début d'émission, c'est considéré comme la première mort quelque part d'Elvis.
Bien sûr. Oui, c'est Lennon qui, de manière célèbre, a déclaré qu'Elvis était mort le jour où il est parti à l'armée.
Exactement.
Et effectivement, musicalement, il y a une césure très claire à ce moment-là. Les quatre premières années, donc de 54 à 58, c'est une production musicale qui est sans égale. Vraiment, c'est la période magique d'Elvis où chaque single est plus génial que le précédent. Et effectivement, à partir du moment où en 60, il revient de l'armée, il y a déjà un goût nettement plus amer et une innocence perdue, définitivement. Et on sent qu'effectivement, cette perte de sa mère, pour laquelle en plus il culpabilise énormément, d'une part parce qu'effectivement, il l'a un peu laissé seul en allant vivre sa vie d'artiste, tout simplement. Et puis d'autre part, en allant faire son service en Allemagne. Elle est morte, comme par hasard, juste avant qu'il parte. Mmh. Il était encore en train de faire ses classes aux États-Unis à l'époque. Il n'était pas encore parti en Allemagne. Donc effectivement, symboliquement, qu'elle meurt juste avant qu'il parte. On peut imaginer pour lui le trauma énorme que ça a dû être et évidemment une perte de repère complètement totale.
Est-ce que c'est à son retour justement de son service militaire qu'il a décidé et qu'il a choisi de se lancer dans le cinéma ?
Alors lui n'a rien choisi. C'est son manager, le colonel Tom Parker, qui a décidé ça pour lui. Pour une première raison déjà très égoïste, c'est que ça lui demandait moins de boulot. C'est-à-dire que, en bon manager à l'ancienne, Tom Parker tenait à suivre Elvis dans tous ses déplacements. Donc déjà, Tom Parker étant un immigré hollandais en situation illégale aux États-Unis, s'il quittait le territoire américain, il y a de grandes chances pour que il ne soit pas autorisé à retourner sur le territoire américain. Donc c'est aussi pour ça qu'elle Elvis n'a jamais tourné en dehors des États-Unis, tout simplement parce que Tom Parker n'aurait pas pu se permettre de l'accompagner. Mmh. Et donc, Parker décide effectivement de limiter les déplacements d'Elvis, qui ne fait pas de tournée entre 57 et 70, donc c'est colossal. Mmh. Et en plus de ça, il se dit que effectivement, le meilleur moyen de garder son poulain pas loin, c'est qu'il n'évolue que dans des studios de cinéma. Et en plus, accessoirement, ça fait que les enregistrements d'albums sont payés comme des bandes originales de films. Donc, en termes de dépenses, c'est absolument minimal. Vu les scripts, on peut imaginer que ça lui coûtait pas cher non plus en création de films.
Oui, parce qu'il a fait des succès phénoménaux comme il a fait des navets.
Essentiellement des navets à partir d'une certaine époque. Les années 60, c'est vraiment... le principe était qu'il fallait qu'Elvis soit le meilleur acteur dans tous les films. Et donc, au lieu de faire qu'Elvis soit un meilleur acteur, il l'entourait d'acteurs absolument mauvais, de façon à ce qu'Elvis brille d'autant plus fort.
Bon, en tout cas, là, on sent qu'Elvis est plus que jamais, je dirais, objectisé, hein, aux mains de son manager. On va se retrouver dans un instant. On va parler de cette période de cinéma, peut-être aussi ce sentiment pour Elvis Presley d'avoir les ailes un peu, je dirais, coupées ou mazoutées par un management compliqué, un problème pour décoller jusqu'en 1968 et le comeback. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
L'histoire d'Elvis Presley, c'est le chapitre de Jour J que nous avons décidé d'écrire avec vous ce soir et avec notre invité, le professeur Julien Bitoun. J'aime beaucoup vous appeler professeur, professeur de rock quand même à Sciences Po, dont je conseille l'ouvrage « Guitare de légende, un guide illustré » chez Hors Collection. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va revenir sur le comeback dans un instant d'Elvis Presley. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un comeback? C'est qu'Elvis, en fait, pendant tout un temps, la période d'Hollywood dont vous nous avait parlé, avec son manager qui a effectivement, Tom Parker, une influence réelle hein, sur son poulain, qui est donc devenu The King, qui est une star. Il l'isole en le mettant donc dans les studios d'Hollywood, mais Elvis continue à chanter puisqu'il fait toutes les bandes originales, finalement, des films dans lesquels il joue. Films qui peuvent avoir du succès, comme des films qui peuvent être de véritables navets. Est-ce qu'on peut dire que cette période, c'est le début d'une descente je parle d'un point de vue créatif ou dans un élan vital d'Elvis Presley.
Alors effectivement, le terme d'élan vital est bien choisi, parce que parler de créativité pour Elvis, c'est toujours un peu délicat à partir du moment où il n'écrivait pas de chansons. Il s'est toujours servi de chansons d'autres pour sa propre création. Donc effectivement, le terme d'élan vital est beaucoup plus pertinent.
C'était la scène qui lui manquait, c'était le contact avec le public, c'était...
Je pense que j'aime pas penser à la place d'Elvis, mais j'imagine qu'il devait se sentir complètement dépassé. Tout simplement déjà dépassé par son propre succès dès 56, parce que faut pas oublier que c'est un gamin de la campagne qui avait jamais mis les pieds hors de Memphis avant 55 et qui du coup découvre un niveau de célébrité et d'adulation totale qui n'existait pas avant. Hein. Le star system s'invente avec Elvis et la starification d'un seul chanteur s'invente en grande partie avec Elvis. Il y avait des crooners avant, mais c'était pas du tout dans ces proportions-là. Et puis dépassé aussi par le contexte musical des années 60. Les années 60, c'est évidemment la décennie des Beatles qui débarque avec fracas aux États-Unis en 64. Début 64, avec leur passage au Ed Sullivan Show.
D'ailleurs, pardon, mais John Lennon dira les Beatles n'auraient jamais existé sans Elvis.
Évidemment, mais aucun artiste rock tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle n'aurait existé sans Elvis, c'est évident. Il est le prototype de tous les artistes rock qui ont suivi ensuite et évidemment c'était l'idole des Beatles, c'était l'idole de Jimmy Page qui a formé Led Zeppelin, c'était l'idole de tous les grands du rock, bien sûr.
Donc privé de cet élan vital, quels sont les titres en tout cas de cette période d'Hollywood qui sont les plus marquants?
Moi c'est les titres de ces films avant le service militaire que je trouve intéressant. Il y a Jailhouse Rock, évidemment, qui est un titre absolument excellent et un film pas si mauvais que ça.
Mmh.
Et puis King Creole, qui est très bon aussi et qui est le dernier film qu'il réalise avant de partir à l'armée. Et pour le coup, après son retour de l'armée, ça se corse nettement jusqu'au retour où là, on a de nouveau une production de qualité.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un comeback en 1968? Est-ce que c'est Elvis qui dit « Bon, hé, oh !» Tom Parker, colonel Tom Parker, moi j'en ai marre des studios d'Hollywood, j'ai besoin de reprendre la scène, j'ai besoin de rechanter et donc du coup je retourne à ma musique. Ou est-ce qu'il est arrivé à la fin d'un contrat avec les studios d'Hollywood?
Alors effectivement, il a fait son dernier film en 69, donc juste après son comeback, mais tout simplement c'est une émission de télé qui s'appelait Elvis, tout court, qui a été surnommée ensuite 68 Comeback Special, qui a été diffusé à l'époque où, en gros, Elvis vient réclamer sa couronne. Alors, après, évidemment, Tom Parker n'était pas étranger à ce concept-là. Hein. C'est quelque chose qui a très bien marché. Et il faut savoir qu'au début des années 70, Tom Parker demandera à Elvis de lui céder 50% de ses revenus. Dès cette époque-là, Tom Parker a une emprise absolument colossale sur Elvis. Et cette émission en 68, c'est une manière à Elvis de montrer que c'est lui qui a inventé toutes ces choses-là qui cartonnent à l'époque. Hein. 68, on est en pleine explosion psychédélique, il y a les premiers balbutiements du hard rock, etc. Donc le rock est devenu une industrie qui vaut des millions de dollars. Et Elvis est là pour rappeler qu'à l'origine, c'est lui qui a créé tout ça.
Ce soir-là, il était diablement sexy, bestial. Donc ce jour-là, il a réussi à reconquérir presque les cœurs qu'il avait perdus.
Bien sûr, et comme toujours... entre le sublime et le dérisoire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs segments dans l'émission Elvis 68 Comeback Special. On le voit, le segment devenu légendaire, évidemment, c'est lui donc en blouson de cuir. Et c'est la seule fois d'ailleurs qu'il apparaît en blouson de cuir. Hein. On se fait toujours cette image du rocker en cuir qui était plus Gene Vincent que Elvis. Mais donc là, il s'approprie ce look-là et il joue sur une scène face à des fan en hystérie totale, dont il prend le mouchoir, il s'essuie avec, il lui rend et évidemment c'est sa possession la plus chère immédiatement.
C'est d'un sexy.
C'est fabuleux, la sueur d'Elvis, j'ai du mal à contenir mon excitation.
Ensuite,
il y a des passages scriptés,
ouais,
où là il fait du kung-fu, on le voit défendre une damoiselle en détresse, des mains de méchants mafieux, et il leur casse la gueule, et ils sont 20, il est tout seul, mais il triomphe quand même. Et puis il y a un segment qui est nettement plus intéressant musicalement, où en gros il s'assied avec les musiciens qui l'accompagnaient dans sa première époque, et il joue en quasi-acoustique.
Superbe.
Et là, on entend vraiment Elvis chanter. Et c'est 25 ans avant ce que deviendra l'émission MTV Unplugged dans les années 90. Ce côté, on sait que tu sais faire le show, on sait que quand il y a des paillettes, tu te places là, mais quand t'es tout seul avec ta guitare, est-ce qu'il se passe quand même quelque chose? Et oui, effectivement, il se passait quand même quelque chose.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J se poursuit dans la vie d'une étoile morte à 42 ans en 1977 dans sa propriété de Graceland. C'est Elvis Presley. Il a vendu plus d'un milliard de disques, Elvis. Il a battu tous les records. Il est même devant les Beatles. Il cohabitait avec ses démons, hein, quand même, Elvis Presley. Julien Bitoun, vous êtes notre invité, mais aussi avec un entourage dont on dit qu'il accédait à tous ses désirs, ce qui aurait précipité sa chute. Oui. La vie d'Elvis, elle était un peu mystérieuse. Hein. Quand il était dans cette maison, on ne savait pas trop ce qui se passait. La façon dont il se présentait au monde nous donnait des indices sur cette fameuse vie un peu dissolue dont vous nous parliez. Mais finalement, on ne savait pas trop ce qui se passait.
Non, effectivement, les gens qui l'entouraient, c'est ce qu'on appelait la Memphis Mafia,
ouais,
qui étaient effectivement des gens qu'il avait lui-même choisi pour l'entourer, qui étaient bêtement des amis de l'époque où il n'était pas connu, qu'il a embauché comme jardinier, comme chauffeur, même comme comptable, ce qui devait donner des trucs assez rocambolesques. Et effectivement, des gens qui lui devaient tout, et qui n'étaient pas nécessairement de milieux sociaux plus élevés que lui à l'origine, et qui par définition ne pouvaient pas lui dire non sur quoi que ce soit. En anglais, on a le terme yes man, de gens qui entourent des célébrités
on
comme ça.
On appelle ça des bini oui-oui ici.
Voilà, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Et Elvis, effectivement, était l'archétype de cette superstar entourée de yes man, et donc de quelqu'un qui petit à petit perd complètement toute connexion avec la réalité, avec l'image que les gens se font vraiment de lui, puisqu'on lui projette sans arrêt une image complètement fausse de sa propre gloire, de sa propre importance. Et évidemment, Graceland étant une villa complètement fermée sur l'extérieur, Elvis ne sort pas autrement que pour les concerts qu'il a à faire. Et du coup, effectivement, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur de sa Cadillac Rose.
C'est aussi donc une star qui s'est montrée sans phare, dans tout ce qu'elle pouvait avoir de pathétique, parfois de pitoyable, quitte à choquer d'ailleurs les esprits.
Bien sûr.
Ça, c'est quelque chose de complètement inédit.
Tout simplement parce que Elvis était une star inédite. On le rappellera pas assez, c'est qu'il n'y avait pas de superstar de l'ampleur d'Elvis avant Elvis. Et donc du coup, il invente au fur et à mesure le fait d'être une superstar et il paye un peu les pots cassés pour ceux qui viendront après lui. Je pense notamment à Michael Jackson, qui sera une personnalité d'ampleur comparable à celle d'Elvis, mais ils sont pas si nombreux à avoir une personnalité de cette ampleur-là. Et effectivement, il n'y avait pas de mode d'emploi pour ce niveau d'adulation et de célébrité auquel il va faire face. Donc lui, en bon gamin de Tupelo, fait face à ça de la seule manière qu'il connaît, c'est-à-dire avec une honnêteté désarmante et avec l'enthousiasme d'un gamin qui a l'opportunité de chanter comme métier. Faut jamais oublier, effectivement, on parle beaucoup de ce côté un peu sombre, reclus, etc. Elvis était aussi une personnalité très attachante, hyper charmante, et quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans un film qui s'appelle That's the Way It Is, où on le voit répéter pour une résidence à Las Vegas, et où il est très détendu avec ses musiciens, où il fait des blagues à ses choristes, mais vraiment drôles, enfin, pas des blagues auxquelles on se sent obligé de rire, parce que c'est le patron, paraît-il qu'il regardait très régulièrement les films des Monty Python, dont il connaissait par cœur les répliques. Donc effectivement, sachant ça, on imagine aussi un Elvis un peu plus léger que l'image qu'on s'en est faite.
Qu'est-ce qui s'est passé quand on parle de la période de dérive d'Elvis? On l'a vu apparaître progressivement, prendre des kilos, devenir bouffi. Là, son addiction aux médicaments ne fait plus véritablement de doute.
Bien
son
sûr.
Hygiène de vie, en revanche, elle, laisse à douter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que le colonel Parker a décidé de presser son poulain comme un citron. Alors, l'image est bizarre, hein, de presser un poulain comme un citron.
C'est pas grave, on l'aura comprise, mais ça veut dire ce que ça veut
pauvre
dire.
Pauvre poulain. Et effectivement, de tirer tout ce qu'il pouvait de son artiste, y compris financièrement. Et donc, à l'époque, Elvis enchaîne les concerts à la fois en résidence à Las Vegas, où il fait des résidences de plusieurs dizaines de dates dans les hôtels où des fans du monde entier viennent le voir. Et puis en parallèle, il reprend les tournées aux États-Unis. Donc il a un rythme de travail absolument délirant. Faut savoir qu'une résidence à Las Vegas, on peut faire deux concerts dans la même journée. Ce qui, quand on fait des concerts d'une intensité comme le faisait Elvis, c'est carrément délirant. Donc c'est complètement inimaginable sans l'aide de pilules excitantes pour tenir. Et puis en parallèle de ça, évidemment, quand on vient de faire deux concerts en étant le roi du monde, on n'a pas envie d'aller se coucher tout de suite. Évidemment, il faut le temps de redescendre.
Donc il est bouffé par le système.
Donc il est complètement détruit par son rythme de travail et effectivement ce système de tournée incessante qui s'installe et dont sont encore victimes à l'heure actuelle beaucoup de musiciens.
Beaucoup d'artistes et on le voit bien. Il était certain de mourir jeune.
Oui, alors il avait cette certitude effectivement par le spectre de la mort de sa mère qui planait en permanence au-dessus de lui. On peut imaginer dans une certaine mesure qu'il ne voulait pas vivre plus vieux qu'avait vécu sa mère, parce que c'est quelque chose qui s'interdisait d'une certaine manière.
Bon, et effectivement, il est décédé à l'âge de 42 quand sa mère est partie. Elle n'en avait que 46. On se retrouve dans un instant, Julien Bitoun, on va revenir sur les obsèques du King. un événement, évidemment, et beaucoup de larmes du côté de Memphis. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Le 18 août 1977, les obsèques du King sont célébrées à Memphis.
Le corps d'Elvis Presley, habillé tout de blanc et déposé dans un cercueil blanc, a été inhumé dans un caveau de marbre hier, en fin de soirée à Memphis. Le corbillard, lui aussi, était blanc, comme les 16 voitures qui suivaient. Les cérémonies se sont déroulées dans l'intimité, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient tout de même venues et elles s'étaient massées tout le long du boulevard qui porte le nom du chanteur pour voir passer le cortège.
Julien Bitoun, dès le matin, évidemment, la foule, en majorité des femmes, en sanglots, assiégée Graceland. La dépouille du King a été exposée au public pendant 2 heures.
2 heures seulement, ouais.
Où ça ?
Dans Graceland,
ouais.
Pour éviter effectivement tout débordement, parce qu'il y a déjà eu des problèmes effectivement de sécurité de la part de la ville de Memphis qui était extrêmement inquiète. Il y a eu 2 morts déjà pendant la première nuit de veillée, tout simplement parce que c'était des foules qu'il n'était pas possible de contenir à l'époque. Et donc effectivement, la ville de Memphis tenait à ce que la dépouille ne soit pas exposée trop longtemps pour éviter un défilé qui n'en finirait plus.
Graceland, qui était une adresse facile à trouver, puisqu'elle était sur un boulevard qui portait le nom d'Elvis.
Le Elvis Presley Boulevard, ouais.
De son vivant, hein, c'est-à-dire que de son vivant, on avait changé le nom du boulevard.
Et qui a été rebaptisé en 72, donc même longtemps avant sa mort.
Exactement. Elvis, il sera inhumé au mausolée du cimetière de Forest Hill à Memphis. Il va retrouver sa mère aimée. Il était super croyant.
Oui, tout à fait, mais ce qui est pas du tout surprenant pour un gamin du sud des États-Unis, c'est une région où la question de la croyance ne se pose pas vraiment, ou en tout cas à l'époque ne se posait pas tellement, et puis ayant grandi en écoutant du gospel, forcément ça laisse des traces aussi, et c'est très probablement la musique qui l'aura le plus touché de sa vie, malgré le fait qu'il ait vécu une carrière entière à chanter du rock. C'est le gospel qui restera le plus proche de son cœur musicalement et le style dans lequel il s'exprimera le plus naturellement.
Voilà, qui est un style effectivement religieux. Il paraît que le mausolée au cimetière de Forest Hill, c'est à l'image d'Elvis.
Tout en simplicité.
Voilà, tout en sobriété, avec un Christ de 3 mètres.
Voilà,
voilà c'est ça. On est pareil, on ne rate pas la tombe, hein, et on est dans le clinquant d'Elvis, la
Mais
flamboyance d'Elvis.
Ce qu'on attend finalement.
Mais oui, bien sûr.
On serait déçu effectivement de voir quelque chose comme la tombe de Pierre Desproges au Père Lachaise, où il n'y a même pas de nom. Là, effectivement, c'est Elvis. Ça peut pas être autrement que se voir à des kilomètres, et il faut la place pour les milliers de couronnes de fleurs venues du monde entier.
À l'époque, le président des États-Unis, c'est Jimmy Carter. Mmh. Il aurait reçu des centaines d'appels et de courriers demandant l'établissement d'un jour
férié,
de deuil national et d'un jour férié. Il a accédé à leur demande ou pas ?
Non.
D'accord, il
n'y
a pas le Elvis Day ?
Tout simplement parce que Elvis était déjà un artiste sur le retour à l'époque et donc n'avait pas cette image d'artiste actuel qui aurait pu convaincre d'accéder à une telle demande. Après, c'est un traumatisme, effectivement, qui est comparable au traumatisme collectif qu'a vécu les États-Unis 14 ans avant, en 63, quand Kennedy a été tué au Texas. Et pour le coup, effectivement, c'est la première fois depuis Kennedy qu'un homme qui a touché autant de monde et qui a, à lui tout seul, incarné les rêves et la grandeur des États-Unis meurt de façon aussi publique. Donc effectivement, il est logique qu'il y ait eu des demandes pour ce jour férié, mais que la demande ait été acceptée ou pas, symboliquement, c'est un jour hyper important dans l'histoire américaine.
Voilà, et vous parliez de John Fitzgerald Kennedy. Je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que nous consacrerons notre jour J de lundi soir à l'assassinat de JFK.
Il y a une certaine cohérence dans tout ça.
Il y a une certaine cohérence puisque nous serons effectivement le 22 novembre. Julien Bitoun, il n'est pas mort en fait, Elvis ?
Bien sûr que non.
Mais non, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils l'ont vu.
Mais bien sûr, moi régulièrement aussi.
Vous le croisez ?
Oui.
Et pas que à Las Vegas quand vous allez vous marier ?
Non.
Il y a beaucoup d'Elvis à Las Vegas.
Non, d'ailleurs, oui, il y a des concours de sosie d'Elvis à Las Vegas. Et ils choisissent toujours la dernière période.
Mais pourquoi ? Oui, c'est ça.
Parce
oui, la période
première...
où il est un peu fat, un petit peu...
Oui, et puis où il a le costume de karaté.
On a rarement croisé un beau Elvis, hein,
bah, c'est
franchement.
Ça, en fait, le problème, c'est que pour être sosie de la première période, il faut juste être beau et avoir un jean.
Exactement. Et là,
donc,
c'est vrai que c'est assez compliqué. Non, mais je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui ne croient toujours pas à la mort d'Elvis. Mm-hmm. C'est ça qui fait sa légende aussi.
Bien sûr. Toute la théorie du complot sur le fait qu'il vivrait sur une île avec Michael Jackson et Kurt Cobain.
Il doit y avoir de l'ambiance là-dedans.
Ça doit être assez sympa, ouais, effectivement, entre grands dépressifs.
C'est ce qui fait la légende. C'est ce qui fait la légende d'Elvis.
Ou bien, à l'inverse, qu'il est pompiste à Tupelo et que personne n'a remarqué qu'il y a un vieux monsieur qui ressemble un peu à Elvis.
C'est dingue.
Qui sert les essences à Tupelo. Enfin, et évidemment, c'est normal quand on a. Quand on a un personnage qui remplit une grande partie de votre vie, on n'a pas envie de se dire qu'il est mort. Et finalement, je suis désolé d'être mièvre, mais d'une certaine manière, il n'est pas mort. Il suffit d'écouter un des disques qu'il nous a laissé. Son personnage est tellement omniprésent que le fait qu'il ne soit plus physiquement présent dans sa résidence de Graceland ne l'empêche pas d'être bien vivant.
Merci beaucoup, Julien Bitoun. Merci monsieur le professeur d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle ce livre que vous avez traduit, un guide illustré de Tony Bacon, que l'on peut retrouver aux éditions hors collection Guitare de légende, le guide illustré. Et puis Woodstock aux éditions Grund. Vous reviendrez d'ailleurs nous parler de Woodstock, c'est chouette ça.
Ça me va.
Ça me fait trop plaisir, je vais mettre mes petites fleurs partout. Et puis on ira courir nu dans les champs. Allez, merci Julien Bitoun.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.